Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à titre posthume en 1949, L'Enracinement rassemble le dernier grand projet de Simone Weil, rédigé à Londres en 1943, alors qu'elle travaillait pour la France combattante. Cet essai philosophique, politique et spirituel devait contribuer à penser la reconstruction française après la guerre et préparer une déclaration des devoirs envers tout être humain. Weil refuse de faire des droits individuels le point de départ exclusif de la justice. Elle cherche plutôt les obligations impersonnelles qui commandent de répondre aux besoins du corps et de l'âme. Son diagnostic central est celui du déracinement, la perte des liens vivants avec un milieu, un travail, une tradition et une communauté. Elle étudie cette maladie sociale dans le monde ouvrier, paysan et national, puis examine les conditions morales, éducatives et culturelles de son dépassement. Texte inachevé mais fortement composé, le livre associe propositions civiques, critiques de la force, réflexions religieuses et interrogations sur la vérité. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les obligations envers la personne précèdent la revendication des droits. Weil ouvre son projet par un déplacement décisif, la justice ne doit pas être pensée d'abord comme la protection de prérogatives individuelles, mais comme la reconnaissance d'obligations qui valent pour tout être humain. Un droit n'acquiert une réalité que si des personnes et des institutions se reconnaissent tenues de le respecter. Sans cette disposition, le langage des droits peut demeurer abstrait, dépendre du rapport de force ou servir des intérêts concurrents. L'obligation est dite impersonnelle parce qu'elle ne dépend ni du rang social, ni de la nationalité, ni de la puissance de celui qui la reçoit. Elle s'impose devant la vulnérabilité humaine elle-même. Cette perspective conduit Weil à prendre pour modèle les nécessités les plus concrètes nourrir celui qui a faim. Protéger celui qui est exposé au froid, ne pas abandonner celui qui subit le malheur. Son ambition ne consiste donc pas simplement à opposer devoir et droit. Elle veut fonder les deux dans une exigence plus profonde de bien et de justice. Cette priorité modifie le rôle de la politique, elle doit organiser des conditions effectives de respect, au lieu de se satisfaire de déclarations solennelles. Le propos reste exigeant, car il demande de juger les lois, les administrations et les pratiques économiques selon leur capacité à répondre aux besoins réels des personnes. Deuxièmement, les besoins de l'âme forment une architecture sociale faite de tensions. Dans la première partie, Weil établit un inventaire des besoins de l'âme, aussi nécessaire à la vie humaine que la nourriture l'est au corps. Elle y place notamment ordre, liberté, obéissance, responsabilité, égalité, hiérarchie, honneur, punition, sécurité, risque, propriété, vérité et enracinement. Cette liste ne constitue pas un programme administratif prêt à appliquer. Elle sert à montrer que la vie collective est détruite lorsqu'elle ne nourrit qu'une dimension de la personne, par exemple la sécurité matérielle, la liberté formelle ou le prestige social. Plusieurs besoins paraissent contradictoires, l'ordre peut étouffer la liberté, la sécurité peut supprimer le risque. Et l'égalité peut être confondue avec une uniformité qui nie les différences de fonctions et de compétences. Pour Weil, une société juste ne résout pas ses oppositions en sacrifiant un pôle à un autre. Elle invente des médiations concrètes afin que chacun puisse participer à une vie commune intelligible et digne. La vérité occupe une place singulière dans cet ensemble. Weil la traite comme un besoin vital, menacé par la propagande, la flatterie collective et la subordination du savoir à la seule utilité. Son analyse impose ainsi une question toujours actuelle : quelles institutions permettent non seulement de vivre, mais de ne pas être intérieurement diminuées par les formes mêmes de la vie sociale. Troisièmement, le déracinement ouvrier et paysan naît de la séparation entre travail, culture et sens. Le déracinement désigne chez Weil bien davantage que le déplacement géographique. Il apparaît lorsque des individus ne participent plus de façon réelle, active et naturelle à une collectivité porteuse de mémoire, de pratiques et de perspectives d'avenir. Le travail industriel est au centre de ce diagnostic. Réduit à une succession de gestes imposés par la cadence, la machine et la hiérarchie, il peut traiter le travailleur comme une simple force disponible. La dépossession ne concerne alors pas seulement le salaire ou la propriété, elle atteint l'attention. Le sentiment de compétence et la possibilité de comprendre la place de son activité dans un monde commun. Weil relie cette critique à son expérience directe de la condition ouvrière sans idéaliser pour autant les anciennes formes sociales. Elle analyse également le déracinement paysan, produit par la guerre, les contraintes économiques et le mépris culturel envers les milieux ruraux. Le paysan ou l'ouvrier ne doit pas être enfermé dans une identité figée. Il doit pouvoir recevoir une culture qui éclaire son activité, participer à des responsabilités et percevoir une continuité entre son travail, son lieu de vie et l'intérêt collectif. La civilisation du travail proposée par Weil vise donc une transformation morale et intellectuelle du travail, non une simple amélioration technique de la production. Quatrièmement, la nation doit être aimée avec lucidité et non transformée en idole politique. écrit dans le contexte de la défaite française, de l'occupation et de la guerre mondiale, le livre interroge les conditions d'une renaissance nationale. Weil ne défend ni un cosmopolitisme abstrait qui ignorait les appartenances concrètes, ni un nationalisme qui sacraliserait la puissance de son propre pays. Une patrie peut être une source de nourriture morale lorsqu'elle transmet des héritages, des formes de solidarité et une mémoire accessible à ceux qui y vivent. Mais elle devient dangereuse dès lors que son prestige justifie la conquête, le mensonge ou le mépris des étrangers. Weil privilégie une forme de compassion pour le pays plutôt qu'une exaltation aveugle. Aimer sa nation avec compassion signifie voir ses blessures, ses fautes et ses faiblesses sans cesser de vouloir son bien. Cette position s'accorde avec sa critique de la force. La conquête militaire. La domination coloniale et la puissance économique peuvent déraciner les populations en brisant leur cadre d'existence sans leur donner de nouveaux liens vivants. La réflexion nationale de Weil ne se réduit donc pas à une défense identitaire. Elle pose le problème politique de communautés capables de préserver leurs trésors sans se fermer aux échanges. Les individus ont besoin de racines multiples et les contacts entre milieux différents demeurent nécessaires à une culture vivante. En dernier lieu, vérité. Éducation et attention sont les conditions d'une civilisation non totalitaire. La dernière dimension majeure du livre concerne les ressources spirituelles et intellectuelles nécessaires au réenracinement. Weil se méfie des idéologies qui transforment la science, la religion, la culture ou la nation en instruments de domination. Une civilisation ne se juge pas seulement à sa puissance technique, elle dépend de son rapport à la vérité et de sa capacité à former des attentions libres. La vérité ne peut être subordonnée à la propagande politique, aux gains économiques ou aux besoins de consolation collective sans que la vie publique soit altérée. Cette exigence éclaire sa conception de l'éducation. Éduquer ne consiste pas uniquement à transmettre des informations ou à préparer une main-d'œuvre. Il faut donner des motifs d'action, rendre perceptible le bien et créer un lien vivant entre savoir, travail et responsabilité. La place de l'attention est ici décisive. Elle suppose une disponibilité patiente au réel, opposée aux réflexes de prestige, aux slogans et aux jugements dictés par la force. Les développements religieux de Weil donnent à cette vision une profondeur particulière, mais son enjeu dépasse une appartenance confessionnelle précise. Elle cherche les conditions d'une orientation vers le bien qui empêche les collectivités de confondre grandeur et domination. Cette ambition explique à la fois la puissance du texte et son caractère souvent controversé. Weil formule des jugements historiques et religieux tranchés, qui exigent une lecture critique et contextualisée. En conclusion, l'enracinement s'adresse aux lecteurs de philosophie politique, de pensée sociale et de spiritualité qui souhaitent interroger les bases morales de la vie collective. Il intéressera particulièrement ceux qui travaillent sur le travail. La citoyenneté, les fractures territoriales, la culture, la transmission ou les effets humains de la domination économique et politique. Son bénéfice principal est moins de fournir un plan institutionnel immédiatement applicable que de déplacer les critères du jugement politique. Weil oblige à demander quelles obligations concrètes une société assume envers les personnes. Quels besoins invisibles elle néglige et comment ces institutions favorisent ou détruisent une appartenance vivante. Le livre se distingue des essais politiques centrés sur la seule distribution des droits, des richesses ou des pouvoirs. Il associe ces questions à une analyse de la vérité, de la dignité du travail, de la force et de la vie spirituelle. Cette ampleur donne au texte une singularité durable. Elle implique aussi une précaution de lecture. Certaines positions historiques, religieuses et politiques de Weil sont abruptes, discutables et marquées par les circonstances de guerre. Les lire sans les isoler de leur contexte permet de saisir la valeur de son geste intellectuel. Face aux simplifications idéologiques, elle propose une pensée des tensions liberté et ordre, sécurité et risque, appartenance et ouverture, culture populaire et exigence de vérité. C'est, et cette exigence, plus que ses solutions particulières, qui maintient la force critique de l'ouvrage. Si vous souhaitez soutenir Simone Weil, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.